Merci. Je vous demande d'applaudir Arthur Goissel, le producteur du film que vous avez vu ce soir. Félicitations. Avant d'entamer les échanges, une première réaction à chaud. Allez-y, lâchez-vous. On est là pour échanger. Qui a participé au tournage dans la salle? Voilà. Ah, bravo. Ah, Arthur, le film est sorti sur les écrans mercredi. On peut te remercier d'être parmi nous pour cette séance aux 400 coups à Angers. Voilà. Et puis, bah, voilà, je vous adresse les félicitations de toute l'équipe, de tous les gens qui aiment le cinéma Angers, d'avoir tourné ce film ici, voilà, dans le lycée d'Arkson, avec le concours de tous les gens qui étaient autour de toi. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur comment Bis Repetita est arrivé à Angers et au lycée?
Ouais, carrément. En fait, ce qui s'est passé, du coup, c'est que, enfin, comme vous avez pu le constater, toute l'ouverture du film, le premier tiers, grosso modo, du film, se passe pour l'essentiel dans un lycée, quoi. Et du coup, on a en fait visité tous les lycées de Nantes, des alentours de Nantes et d'Angers, des alentours d'Angers. Et en fait, la réalisatrice a fini par choisir Bergson, qui se trouve, si je dis pas de bêtises, être le lycée du chef décorateur, enfin, dans lequel a étudié le chef décorateur du film, Quentin Milhaud. Et en fait, le truc, c'est que ce qui a vachement plu à Émilie, dans ce lycée en particulier, c'était d'une part que c'est un lycée qui a une architecture en fait vraiment particulière. Enfin, j'ai oublié le nom de l'architecte du lycée, mais c'est un architecte vraiment connu. Voilà, c'est ça, exactement, merci. Et qui, du coup, a des lignes qui sont vraiment singulières, quoi, et qui, du coup, enfin, l'intéressait, quoi. Elle avait envie de le filmer pour cette raison, d'une part. D'autre part, c'est aussi un lycée qui est, en tout cas, en particulier dans le centre du lycée, à l'endroit, dans le hall principal, quoi, est très, très lumineux, avec des très, très grandes douches de lumière qui viennent du plafond et tout. Et ça a aussi tout de suite beaucoup plus... à Émilie et à la chef opératrice, parce que ça permettait d'avoir beaucoup de lumière dans ce décor, et comme on rentre dans le film par ce décor, il y avait vraiment l'envie que la tonalité du film puisse tout de suite s'incarner dans le décor. Et par exemple aussi le fait que ce soit un lycée qui soit assez coloré, avec des couleurs un peu variées et tout. Enfin, il y avait une sorte de chaleur, quoi, dans cet endroit, et en même temps de singularité, qui faisait que, ouais, on a eu le sentiment que c'était un super endroit pour démarrer une comédie, quoi. Voilà.
Beaucoup de vie dans ces premières scènes, dans les scènes tournées au lycée, dans tout le film d'ailleurs, mais au lycée. Je crois que vous avez tourné dans des conditions un peu particulières. Le lycée, il a été ouvert.
Oui, alors oui, c'est ça. Alors carrément. Alors c'est vrai que souvent, quand on tourne des films, et ça, du coup, il y a sans doute pas mal de gens qui le savent déjà, mais je le dis pour ceux qui savent pas. Mais en règle générale, on ferme les endroits dans lesquels on tourne, ou en tout cas, on tourne dans des endroits qui sont pas en activité. Simplement parce que c'est un tournage, ça prend de la place, donc quand les gens sont en train de vivre leur vie dans ces endroits, on les gêne, quoi, concrètement. Et puis aussi parce que c'est vrai que parfois on a besoin de contrôler l'espace, les déambulations, à un point où en fait il faut que les espaces soient vides et que nous on les réinvestisse, quoi. Il se trouve que là, alors je me souviens plus exactement, parce que je sais qu'il y a eu des débats sur tourner pendant les vacances ou pas. Alors le truc, c'est qu'un lycée, pendant les vacances, c'est complètement fermé, en règle générale, quoi. Et donc du coup, c'est vrai que tourner pendant une période où le lycée est ouvert, les gens sont là. Enfin, je veux dire, le lycée, il y a des gens qui l'ouvrent. Donc il n'y a pas besoin de l'ouvrir de manière exceptionnelle pour un tournage et tout. Donc ça, c'est une première chose. Et après, la deuxième chose en fait que nous on a trouvé super intéressante, c'est que un lycée pendant les vacances scolaires, y faire venir des gens et tout, c'est pas forcément simple. Alors que là, du coup, il était déjà peuplé. Alors évidemment, il y a tous ceux qui ont participé au film, je veux dire, qu'on voit au premier plan ou dans la salle de classe ou ce genre de choses, et où là, c'est des étudiants et puis des gens du coin, quoi, qu'ont été casté pour faire le film. Et en même temps, il y a aussi plein de moments, par exemple dans des plans de lycée et tout, où on voit des gens qui déambulent parfois très loin, enfin, qu'on ne peut pas du tout identifier, qui sont peut-être en train de passer au fond d'un couloir, peut-être même parfois sans même savoir qu'il y a un tournage et tout. Et où en même temps, bah, c'est chouette, quoi, parce que c'est bête, mais c'est comme tourner dans la rue d'une certaine façon. Il y a un truc où quand on tourne dans la rue, bah, y a du mouvement, il y a quelque chose qui se passe, et ça crée aussi du dynamisme et de la vie et tout. Et c'est vrai que comme en fait, ce film, bah, c'est un premier film, c'est pas un gros film, au sens de, c'est pas un film très cher, où du coup on a la capacité de faire des très très grosses reconstitutions avec des centaines et des centaines de personnes et tout, parce que ça coûte très vite beaucoup beaucoup d'argent. Et donc c'est vrai que bah, voilà, quoi, de la même manière que tourner dans la rue de manière un tout petit peu sauvage, bah, ça a le mérite de pouvoir obtenir des plans qui tout de suite sont visuellement excitants, chouettes, dynamiques, parce qu'il y a du monde qui se promène et tout. Bah, là ça a été un peu pareil, quoi, d'une certaine façon. Et non, non, enfin, franchement, enfin, nous, ça a été un tournage très, très, très heureux, et en particulier la partie française, quoi, et dans ce cas-ci, parce qu'on a été vraiment trop, trop bien accueillis, et c'était vraiment génial.
En tout cas, ça sent à l'écran qu'il y a une dynamique et une joie de, dans l'établissement. Et...
Ouais, mais c'est important, en fait, surtout dans une comédie, en fait. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment dire, mais sur un plateau de tournage, l'ambiance... impacte quand même ce qu'on tourne, ce qu'on arrive à obtenir et tout. Et c'est vrai que je trouve que, en particulier quand on tourne une comédie, et réussir à être dans des conditions qui autorisent une forme de décontraction, je pense que ça aide à obtenir de meilleures choses.
Est-ce qu'il y a une première question, une première remarque, une première impression? Voilà. Donc je vais me balader avec le micro. N'hésitez pas à lever les mains.
Bonsoir.
Bonsoir.
Moi, j'avais une petite question. Déjà, merci beaucoup pour ce moment. J'ai adoré le film, j'ai beaucoup ri, je trouvais sa fin, c'est vraiment super.
Trop chouette, merci beaucoup.
Pas de souci. Et j'aurais aimé connaître votre parcours, ce que vous avez fait avant de devenir producteur et une école, ou je sais pas. Et pourquoi la production ?
C'est une excellente, vaste question. Alors en fait, moi, avant de faire du cinéma, en fait, j'ai fait des études de médecine pendant assez longtemps, pendant 4 ans. Et en fait, c'est juste que, bon, c'est pas si original, hein, parce que je viens d'une famille de médecins, mes parents étaient médecins, machin, tout ça, donc voilà, le côté... Les chiens font pas des chats, quoi. Mais non, et en fait, ce qui s'est passé, c'est juste que j'ai pas beaucoup aimé les stages à l'hôpital et tout ça. Et en fait, ce qui est marrant, surtout, c'est que, alors même que pourtant j'avais des parents médecins, donc que j'entendais, je les entendais parler de médecine et tout, j'avais une vision assez tronquée de la médecine. Je pense qu'elle était vachement, influencée par les fictions que j'avais vues dans le milieu médical, et en particulier urgence, que tous les médecins regardaient à l'époque. Dont moi, j'ai regardé évidemment toutes les saisons. Et non, voilà, je sais pas, en fait, ça m'a pas beaucoup plu. Et à l'époque, je me suis dit, ok, c'est quoi le truc qui vraiment me passionne? Et en fait, c'était le cinéma, parce que j'avais aussi la chance que mes parents soient cinéphiles et du coup m'emmènent beaucoup au cinéma depuis que je suis petit, quoi. Alors après, en même temps, j'étais pas du tout connecté à ce monde-là. Et puis mes parents, évidemment, n'avaient pas du tout envie que j'arrête mes études de médecine. Et donc, du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un stage, en fait, dans une boîte de prod qui faisait pas du tout des films pour le cinéma, qui faisait des films en 3D, en fait, pour les parcs d'attractions, genre Puy du Fou et trucs comme ça. Et c'était une toute petite boîte, montreuilloise, donc en région parisienne, et où c'était un seul mec qui travaillait dans cette boîte et qui était tout seul. Et qui m'a pris en stage, quoi. Et alors que je connaissais rien du tout, enfin moi j'avais que vu des making-of dans les DVD et trucs comme ça, mais ça avait l'air chouette et je m'étais dit ok, ça pourquoi pas, je pourrais peut-être faire. Et c'est un type qui m'a appris beaucoup, qui m'a en fait confié plein de responsabilités. Je me suis retrouvé à faire de la direction de production alors que je connaissais rien et tout. Et en 3D et tout, j'ai même fait un truc trop marrant, j'ai fait de la direction de production sur une pub pour un sous-marin nucléaire thaïlandais. Qui est un truc que du coup genre, personne n'a jamais vu, puisque c'est des films qui sont fabriqués juste dans un cadre commercial pour montrer, bref, entre gens de la défense et tout ça. Et d'ailleurs, sachez qu'on n'a pas le droit de filmer les hélices des sous-marins, puisque c'est secret défense. Donc c'est des fausses hélices, on les avait fait en VFX. Et bref, non, enfin voilà quoi. Et du coup, j'avais trouvé ça vraiment cool. Et du coup, en gros, j'ai dit à mes parents, bah vas-y, j'aimerais bien faire ça. Et ils m'ont dit, bah faut que tu réussisses un concours d'une école et machin. Et dans ce cas-là, ok. Et du coup, et par ailleurs, je m'étais dit aussi que c'était, comme je connaissais personne, je m'étais dit que c'était pas mal de faire une école pour rencontrer des gens, parce que bah quand même, les films, ça se fait pas tout seul quoi. C'est quand même des aventures collectives et tout. C'est des trucs où faut rencontrer des gens avec qui on a envie de faire un bout de chemin et tout. Et moi, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, quoi. Et du coup, après, j'ai fait une école de cinéma. Et quand j'ai pu rentrer dans une école, j'ai arrêté la médecine. J'ai fait la FEMIS à Paris, du coup, qui est une école dans le 18e arrondissement. Enfin, qui a le mérite d'être une école gratuite aussi, ce qui est pas mal. Non pas que ce soit un problème de faire une école payante, il y en a des super. Hein, mais bon, moi, il se trouve qu'à ce moment-là... bon bref, je vais pas raconter ma vie, mais en fait, mon père venait de décéder, donc du coup c'était pas trop, ma mère avait pas trop d'argent, pas suffisamment d'argent pour que je me relance dans des études longues. Voilà.
En tout cas, c'est à la FEMIS que tu as rencontré plusieurs de tes collaborateurs actuels, notamment et puis Émilie. Voilà.
Ouais, complètement. Bah, en fait, Émilie, on s'est rencontrés en première année, et en fait le truc c'est que en fait, c'est marrant, Émilie, moi et en fait, un de mes associés, on s'est rendu compte, parce qu'il était aussi à la FEMIS en scénario, et l'autre en production, d'ailleurs, j'ai deux associés. Et en fait, avec l'un des deux, on s'est rendu compte très tôt en première année, dans un atelier d'écriture, en fait, que Émilie, elle avait un talent particulier, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, il y avait un truc qui se distinguait tout de suite chez elle, dans sa qualité d'écriture et tout. Elle avait un sens du storytelling, des situations et tout, que nous, on n'avait pas du tout, naturellement en tout cas, et qu'elle avait. Et c'est vrai que tout de suite, du coup, on a eu un peu envie de... Bah, je sais pas quoi, juste d'essayer de l'aider à faire ses trucs, quoi. Et donc, en fait, on s'est mis à faire plusieurs courts-métrages, du coup, que Bastien, mon associé, elle, il l'accompagnait, parce que lui était en scénario, et donc, du coup, il l'accompagnait un peu dans l'écriture, dans la structuration de ses récits et tout. Et puis moi, vraiment, j'étais sur la production, quoi. Et sur la fabrication et tout. Et on a fait plusieurs films, et puis voilà, c'est comme ça qu'on a fini par faire un film de fin d'études qui a vraiment bien marché, et puis qui a un peu lancé sa carrière à elle de réalisatrice, et puis nous, qui nous a aussi aidé quand on a monté notre société de production en sortant d'école, quoi. Il y a 10 ans maintenant, pile 10 ans.
Il y a 10 ans, donc un parcours de 10 ans pour arriver à Bis Repetita, mais des collaborations autour de courts-métrages. Tu peux nous en dire un petit mot, parce que c'est quelque chose d'important pour toi et pour la fille.
Ouais, carrément. Bah ouais, dans le court-métrage, pour nous, ça a été essentiel, dans le sens où vraiment, on a appris notre métier en faisant des courts-métrages pour de vrai, quoi. Et même, je dirais qu'on a été un peu des comment dire, il y a un terme anglo-saxon, c'est les slow learners. On a été un peu lent, quoi, genre à apprendre notre métier. Je pense qu'on le faisait pas très bien au début. et du coup, on a mis 10 ans à vraiment bien l'apprendre. Et je pense que maintenant, on est un peu meilleur qu'on l'était au départ. Et le court-métrage, ça nous a vachement aidé, en fait, à affiner notre méthodologie, notre manière de travailler, notre manière de nous lancer dans des projets et tout. À devenir de meilleurs producteurs. Donc, c'est vrai qu'en France, on a cette chance incroyable de pouvoir faire des courts-métrages qui sont financés, bien financés. Et où du coup, les gens peuvent travailler en étant payés et tout. Alors évidemment, pas bien payés, mais quand même, en fait, on a la capacité du coup de faire des films ambitieux et du coup, que je veux dire, dans tous les départements techniques, que ce soit, je veux dire, la production ou l'image ou le son ou la mise en scène et tout, de faire ces gammes via le court-métrage et ensuite, du coup, d'arriver avec une vraie compétence et une vraie expertise quand on se met à faire des projets plus ambitieux, que ce soit des longs métrages ou des séries ou des unitaires pour les plateformes, ou les trucs comme ça, qui sont des choses que maintenant on fait, mais en fait on a mis plusieurs années, quoi, à devenir des bons techniciens, chacun dans notre domaine, quoi.
Le résultat est là, voilà, bravo. Est-ce qu'il y a une question? Voilà.
Bonsoir, je vais poser la question parce que je me dis peut-être ça peut servir à d'autres personnes dans la salle, mais est-ce que vous pouvez expliquer en quoi consiste votre métier de producteur, concrètement ?
Oui, alors c'est vrai que le métier de producteur, c'est un métier... en règle générale, on s'imagine que le producteur, c'est celui qui va chercher l'argent, quoi, pour résumer. Et c'est vrai, hein, c'est pas du tout faux. C'est de fait... une des responsabilités du producteur que de rendre les projets possibles. Et pour ça, il faut de l'argent parce que bah, vous avez vu le générique, quoi. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur un film, quoi. Et encore, là, c'est un relativement petit film. Enfin, quand vous voyez, je sais pas moi, Les Trois Mousquetaires, par exemple, vous avez un générique qui est trois fois plus long, quoi. Et du coup, mais c'est vrai que ça se limite pas du tout à ça, en fait. C'est-à-dire que un producteur, déjà, je pense qu'en premier lieu, c'est une sorte d'accoucheur, dans le sens où c'est un accompagnant vraiment des auteurs et des autrices qui veulent faire des films, quoi. Et du coup, c'est un premier regard sur les histoires. Parce qu'en fait, finalement, au départ, une histoire, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui dit, ah ben moi, j'aimerais bien parler de ça, ou tiens, j'ai l'idée genre d'un personnage qui serait dans telle situation et à qui il arriverait tel problème, et puis bam, ça commence à faire une histoire. Et du coup, le producteur ou la productrice, c'est la première personne qui va dire à un auteur ou une autrice, ah bah putain, je pense qu'il y a vraiment un truc, que tu tiens quelque chose, même si c'est embryonnaire et même si pour le moment il n'y a pas du tout de scénario ou quoi que ce soit. Et ensuite, du coup, c'est quelqu'un avec qui les auteurs et les autrices peuvent faire du ping-pong, quoi. C'est-à-dire que très souvent, il y a plusieurs étapes dans l'écriture d'un scénario. Ça commence d'abord par un synopsis, parfois vraiment quelques lignes, quoi, une dizaine de lignes ou une page. Et puis ensuite, ça va devenir un synopsis détaillé. Donc un synopsis détaillé, c'est quelque chose qui va raconter l'histoire dans son entièreté, mais à l'os, quoi, de manière presque... On pourrait presque dire... j'allais dire en bullet point, quoi. C'est-à-dire genre presque juste l'enchaînement des idées, du mouvement du film et tout, mais c'est vraiment à l'os, il n'y a pas encore de scène de dialogue ou de trucs comme ça. Et souvent, ça, c'est un document qui fait 6, 7, 8 pages. Puis ensuite, il y a le traitement. Le traitement, c'est une forme assez littéraire, presque en prose, où du coup, bah, on se met vraiment là à voir toute la structure du film, mais qui s'épaissit quand même, où on commence à vraiment bien sentir les scènes et tout. Puis il y a le séquencier. Le séquencier, c'est là, il y a vraiment toutes les scènes, mais sans les dialogues. Et c'est un document qui fait plutôt 35-40 pages et qui va permettre de mieux sentir la temporalité du récit, les moments où tout à coup, on se met à s'engoncer un peu dans le récit et tout à coup, on se dit, en fait, c'est moins efficace que ce qu'on imaginait au traitement et tout. Et puis c'est qu'ensuite qu'on passe au dialogué. Il peut y avoir encore plusieurs versions de dialogué. Ça, c'est les scénarios tels que vous les imaginez, quoi. C'est-à-dire avec des didascalies et puis des dialogues, enfin, exactement comme, je sais pas, quand on lit une pièce de théâtre ou un truc comme ça. Et donc voilà, et du coup le producteur, son boulot, c'est vraiment d'accompagner ses auteurs, ses autrices dans tout ce travail de conception là, quoi. Et c'est vraiment le premier regard, même si bien sûr il y a d'autres regards qui peuvent s'adjoindre au sien, hein, c'est-à-dire d'autres scénaristes qui peuvent arriver en cours de route, des consultants sur le scénario qui à un moment donné peuvent apporter une expertise sur le récit, sa dramaturgie, les problèmes du coup de structure qu'il pourrait y avoir, tel personnage qui est sous-développé et qui gagnerait à se développer, ou alors telle intrigue qui est mal imbriquée dans les autres, etc. Et une fois qu'on a en fait un scénario qui est en place, en fait très souvent ce qu'on fait, c'est que on caste au moins le rôle principal ou les deux rôles principaux pour avoir ce qu'on appelle, et c'est un mot horrible, mais je vous le dis quand même parce que c'est le mot que tout le monde utilise, pour avoir un package. Ce qu'on appelle un package, c'est vilain, mais c'est comme ça que les gens disent. Et ensuite, avec ça, on va démarcher du coup des financeurs. Et donc c'est là qu'on rentre dans la phase que vous imaginez, qui est celle d'aller chercher de l'argent, quoi. Et cette phase-là, elle se fait en plusieurs étapes. La première personne qu'il faut convaincre, c'est le distributeur. Donc le distributeur, c'est la personne qui est en fait chargée de mettre le film sur le marché, en fait, au sens strict du terme. C'est-à-dire, c'est celui qui fait l'intermédiaire, on pourrait dire, entre les producteurs et les réalisateurs les exploitants, les exploitantes. Et la salle, en fait. Et donc, du coup, c'est vraiment les gens qui vont élaborer la stratégie de sortie d'un film. Donc, c'est tout à la fois sa bande-annonce, son affiche, toute sa réflexion marketing autour du film, comment promouvoir le film, dans quel type de salle le mettre. Est-ce que c'est un film qui est plutôt destiné à des CGR, par exemple, ou à des très grosses salles, ou alors est-ce que c'est plutôt un film à réessai, enfin, et voilà, ils vont réfléchir un peu à tout ça et ils vont... voilà, élaborer une stratégie de sortie, quoi, et du coup dépenser aussi de l'argent, parce que mine de rien, en fait, les distributeurs, c'est presque ceux qui prennent le plus de risques financiers sur les films, parce que ils financent les films en partie, parce qu'ils mettent ce qu'on appelle des minimums garantis. C'est un peu technique ce que je dis, mais bon, si vous trouvez ça nul, vous pouvez m'arrêter. Hein. Ils mettent des minimums garantis, donc du coup, c'est de l'argent qui permet vraiment de fabriquer, quoi. Donc c'est les premiers financeurs du film, et c'est aussi eux qui dépensent du coup, bah, ce qu'on appelle les frais d'édition, donc les frais de sortie des films. Et voilà, donc ils prennent beaucoup de risques, ces gens-là, et c'est souvent des gens très très pointus dans ce qu'ils font, qui ont une très très bonne maîtrise du public, du marché et tout, et c'est aussi des grands cinéphiles, le plus souvent, enfin même toujours en vrai, en France. Et une fois qu'on a un distributeur, ce qui est essentiel parce qu'en gros, pour pouvoir obtenir des chaînes de télévision, par exemple, qui se positionnent en préachat sur des films, en fait, il faut qu'on puisse garantir en tant que producteur qu'on va sortir le film en salle. Et c'est le distributeur en fait qui apporte cette garantie et qui dit bah, « moi, je vais sortir le film en salle, vous pouvez me faire confiance puisque c'est mon métier ». Et donc, une fois qu'on a le distributeur, ensuite, on va chercher des préachats des chaînes de télévision. Et il y a deux types de préachats qu'on peut obtenir. C'est des chaînes dites payantes, donc c'est Canal+, en fait, qui est le plus gros financeur du cinéma français, mais c'est aussi maintenant, depuis peu, Netflix, Amazon, via les accords SMAD, bon, on s'en fiche du nom des accords, mais bref, qui sont rentrés dans la chronologie des médias françaises et qui maintenant financent le cinéma français aussi, et ont des obligations d'investissement, puisqu'en gros, le principe, c'est que les chaînes françaises ont des obligations d'investissement depuis les années 80, en fait, où, en gros, il y a eu toute une politique culturelle menée par Jack Lang à l'époque, qui a obligé, en fait, les chaînes de télévision françaises à investir un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires dans le cinéma français. Et donc, du coup, il y a tout un tas de règles que je ne vais pas vous énumérer et tout, mais ils doivent mettre une certaine quantité d'argent dans les premiers films, dans les films de la diversité, etc., etc. Et en fait, toute cette politique-là, d'ailleurs, a été un succès absolument total parce que...
Repris dans le monde entier.
Ouais, non, mais c'est-à-dire, en fait, ça a été un succès total parce que ça, c'est... Bon, pareil, je sais pas si c'est très intéressant, ça, mais en gros, je vous le fais méga court, mais en fait, en gros, le cinéma, genre, à la fin des années 50, c'est plus de 400 millions de spectateurs en France par an, juste pour vous donner des chiffres hyper concrets. Au début des années 80, donc après l'avènement de la télévision, c'est tombé, je crois, au plus bas à 135 ou 140 millions, je crois, quelque chose de cet ordre, voire même 125, je crois. Enfin bref, donc ça s'est effondré, ça a été quasiment divisé par 4, par 3,5. Et en gros, ce qui s'est passé du coup, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu donc toute cette politique culturelle qui a été menée et qui a permis à ce qu'on arrive à des chiffres de fréquentation, enfin jusqu'à récemment, on va dire pré-Covid, aux alentours de 260, parfois même 280 millions les meilleures années, les années genre où il y a Intouchables ou des énormes succès. Donc du coup, c'est une politique culturelle qui a permis de doubler le nombre d'entrées et en fait de revitaliser le cinéma français et même le cinéma étranger à certains égards, puisqu'il y a en fait plein de films étrangers qui sont coproduits avec la France et tout, et voilà, et tout ça participe au rayonnement de la France dans le monde de l'audiovisuel, quoi. Donc voilà, donc du coup les chaînes de télé sont cruciales dans le financement des films, et puis après il y a aussi évidemment toutes les collectivités territoriales, les régions, parfois les villes et tout, les départements aussi, qui peuvent mettre de l'argent dans les films, et voilà, et après il y a encore d'autres trucs, mais je ne vais pas rentrer forcément dans un immense niveau de détail, mais voilà, du coup ça c'est l'étape du financement du film, et une fois que le film il est financé, et bah, il y a toute la partie fabrication, quoi, donc ce qu'on appelle la production exécutive, et là c'est le moment où on embauche toute une équipe technique. Donc on commence par les chefs de poste département par département, et puis ensuite chaque chef de poste compose sa propre équipe et on met en œuvre du coup les moyens de production nécessaires pour fabriquer les films. Donc on repère des décors, on caste genre des comédiens, etc. Voilà. Et puis après il y a toute la phase de post-production des films, donc c'est le montage image, le montage son, le mixage, l'étalonnage et tout ça, où nous, du coup, producteurs, on se remet à avoir un rôle, je dirais, de premier regard artistique. C'est-à-dire que genre, le tournage, en tant que producteur, on est vraiment... Moi, je considère, en tout cas, à titre personnel, que le tournage, c'est pas trop mon endroit, dans le sens où... ça peut être mon endroit dans le sens où je vais être sur le plateau pour régler des problèmes de conflits entre des personnes ou des choses comme ça, enfin faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance et que les choses se passent bien. Mais moi, pour moi, c'est un moment, le tournage, où il y a un seul capitaine ou une seule chef à bord, c'est le réal. Et moi, je lui ai donné les moyens genre, de faire son film. J'ai fait de mon mieux pour qu'il ou elle puisse faire le meilleur film possible. Mais je laisse faire, quoi. Je n'ai pas grand-chose à apporter, sauf si on me sollicite pour me demander si je pense que il y a tel problème, on peut plus tourner dans tel endroit, est-ce qu'on pourrait pas changer tel décor et le transformer en ceci, cela, est-ce que je trouve ça bien, là je peux donner éventuellement mon avis, mais voilà, c'est plutôt un moment où moi je suis quand même en retrait, je dirais, sur le plan artistique. Mais par contre, ensuite en post-production, je redeviens, comme au moment du scénario, un premier regard sur les différentes versions de montage et tout ça, et où du coup je fais des retours, quoi. Donc voilà, en gros, le producteur, ça recouvre vraiment tout ça, donc c'est un métier qui est en fait assez vaste, genre... Et assez stimulant, parce que tu touches à beaucoup de choses, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, tu touches vraiment à plein de trucs.
Éprouvant aussi, parce qu'il y a une prise de risque quand même quand tu es producteur.
Alors oui, du coup, c'est quand tu es producteur, tu es entrepreneur aussi, et puis tu garantis à tous tes investisseurs ce qu'on appelle la garantie de bonne fin, et donc du coup, oui, tu prends des risques, quoi. C'est-à-dire quand tu as du dépassement ou quoi, c'est toi qui dois te débrouiller pour le financer d'une manière ou d'une autre, quoi.
Voilà, donc il y a un modèle économique à tenir, et puis il y a une ligne éditoriale aussi à mettre en œuvre, parce qu'une maison de production, c'est aussi ça, c'est des choix, c'est des artistes, oui. C'est des techniciens, c'est des musiciens. La maison de production, elle est aussi là pour donner une éditoriale à sa chaîne de production.
Oui, c'est vrai. Alors après, c'est vrai que la ligne éditoriale, c'est un truc un peu complexe, dans le sens où, alors il y a différentes philosophies dans la manière d'aborder la question de la ligne éditoriale. Il y a des gens qui sont extrêmement rigoristes sur ça, et qui vont du coup chercher à développer une ligne éditoriale très pointue, c'est-à-dire dire, nous, notre truc, c'est ça. Par exemple, on va faire que des comédies populaires. Par exemple, ou alors on va faire que du cinéma horrifique, ou alors on va spécialiser. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, avoir une ligne extrêmement claire et qui fait que du coup, on sait que cette société, elle fait ça. Je sais pas. Et c'est vrai aussi parfois, genre de certains distributeurs. Par exemple, je parlais à un distributeur récemment qui s'appelle Apollo, qui est un très gros distributeur indépendant français, mais qui fait des très grosses comédies. Eux, par exemple, leur ligne éditoriale, c'est de faire des grosses comédies populaires destinées à la province. Alors moi, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est ce qu'il me disait. Et même plus spécifiquement que ça encore, destinées même à certains territoires. C'est-à-dire, du coup, par exemple, de faire de la comédie régionale. Bon, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire non plus, parce que moi, ça peut m'arriver de regarder des films qui... Je m'en fous que ce soit un film de chez moi, ça peut m'intéresser... Même ça m'intéresse presque plus que ce soit un film d'ailleurs pour voir comment ça se passe chez les autres. Enfin, je trouve que c'est un des trucs cool avec le cinéma, c'est aussi une fenêtre sur d'autres mondes que le sien, quoi. Enfin bon, peu importe. En tout cas, c'est ça pour dire que du coup, il y a des gens qui ont un rapport à la ligne éditoriale très strict comme ça, mais qui leur permet aussi d'une certaine façon de développer une expertise hyper pointue dans un domaine. Et du coup, enfin voilà quoi, de la même manière que je sais pas moi, quelqu'un qui fabriquerait que des fauteuils, et à un moment donné, il devient très 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 fort pour fabriquer des fauteuils. Enfin, ou je sais pas, c'est comme dans les trucs de pâtisserie ou de trucs comme ça, où maintenant il y a des pâtisseries qui font que des éclairs au chocolat ou des trucs comme ça. Bon, l'avantage c'est qu'à un moment donné, tu te perfectionnes à un point où voilà quoi, tu développes un savoir-faire très très pointu à un endroit. Nous, on n'est pas du tout là-dedans, pour être honnête. C'est-à-dire que notre ligne éditoriale, elle est aussi molle que on produit les trucs qu'on a envie de voir, quoi. Et comme on est plutôt cinéphile, même si on n'aime pas tout, mais on peut produire aussi bien, je sais pas, un film de genre qu'une comédie ou qu'un drame social, peu importe en fait. Et en fait, je vais même aller plus loin. En fait, si notre ligne éditoriale, ce serait plutôt aujourd'hui de se dire, on a envie de produire des films de gens dont on se dit qu'ils ont une qualité de regard particulière et qui nous parlent, qui résonnent avec nous d'une manière ou d'une autre. Je dirais que c'est ça. Et ça n'a pas toujours été notre ligne éditoriale, c'est pour ça que je le dis. Parce que je pense que quand on a commencé, par exemple, on était très orienté sur les histoires et les concepts, on va dire. C'est-à-dire, dès qu'on nous pitchait un truc, on se disait, ah ouais, il y a un bon concept. On avait envie d'y aller parce qu'on avait confiance dans notre capacité à développer des bonnes histoires et tout. Et en fait, on a fait pas mal de courts-métrages dont on avait la sensation qu'ils étaient plutôt moins bons que les scénarios qu'on avait développés. Et on s'est rendu compte que la raison pour laquelle les films étaient moins bons que ce qu'on espérait, c'est que, en fait, on n'était pas suffisamment attentif juste à la qualité de regard des réalisateurs, à qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment faire et tout, comment ils nous parlaient de mise en scène et tout. On ne faisait pas trop gaffe à ça, aussi parce qu'on avait besoin au tout début, comme on était une société, d'avoir des projets, du coup de faire rentrer des projets. Donc on a été très attentif juste au pitch, au machin, mais moins aux gens qui les portaient, quoi. Et c'est vrai que nous, maintenant, c'est ça qui nous oriente aussi, parce que mine de rien, quand on fait des films, c'est des processus méga longs, quoi. C'est des années de travail.
C'est combien de temps un film comme celui-ci ?
Ce film-là, franchement, c'est, je sais pas, c'est 6 ou 7 ans. Après, c'est 6 ou 7 ans aussi parce que, Émilie, du coup, c'est une réalisatrice qui a eu beaucoup de succès en télé et elle a fait des gros trucs en série télé et tout, comme je vous disais pendant la présentation du film. Et donc, du coup, elle était pendant certains moments pas du tout dispo parce qu'elle disparaissait pendant 8 ou 9 mois pour réaliser une série. Donc voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à un moment donné, pour réussir à porter ensemble une histoire et réussir à s'apprécier et à continuer à aimer, genre échanger autour d'un projet sur le long cours, en fait, il faut se sentir proche des gens d'une manière ou d'une autre, c'est obligatoire en fait, enfin je pense.
Avec la réalisatrice et puis aussi des collaborateurs proches de la réalisatrice, travail d'équipe. Est-ce qu'il y a une autre question? Voilà, j'arrive.
Bonsoir.
Bonsoir.
En tant que producteur, combien de films menez-vous en parallèle? Enfin, ça a l'air énorme. Enfin, vous êtes même très en amont sur la production. Comment ça se passe?
Ça, du coup, c'est vrai que c'est un enjeu que d'avoir toujours un certain nombre de projets en développement. Et du coup, il y a les projets du coup, qu'on est en train de terminer, ceux qu'on est en train de sortir, comme ce film-là. Mais il y en a aussi qu'on est en train de préparer ou déjà en train de tourner, et puis d'autres qu'on est encore en train juste d'écrire ou parfois de financer. Et en fait, c'est vrai que pour faire en sorte de pouvoir avoir suffisamment d'activité pour faire exister une société, même petite, hein, puisque nous, on est une petite société, on a 6 employés en tout, ce qui est donc une PME. du coup, ouais, faut être sans cesse dans l'anticipation de qu'est-ce qu'on va faire dans 3, 4 ans, 5 ans. Et du coup, on continue de faire pas mal de courts-métrages. On en fait entre 3 et 5 par an. Je dirais qu'en moyenne, au sein de la société, il y a à peu près toujours une dizaine de courts-métrages en développement. Des longs-métrages, on doit en avoir 6 ou 7. Et on doit avoir, deux projets de série et un ou deux projets d'unitaire. Truc comme ça. Nous, on n'est pas très télé, en fait, encore. Non pas qu'on n'aime pas ça, on est un peu comme tout le monde, hein, on regarde plein de séries, on regarde Netflix, Amazon, Canal, tout ça. Mais c'est juste qu'en fait, au début, on s'est dit que c'était mieux de... Parce que aussi, on venait de là, de nous ancrer dans le cinéma et d'essayer de nous construire genre un réseau, une réputation à cet endroit pour pouvoir faire des choses, et que peut-être dans un second temps, une fois qu'on aurait la sensation de commencer à être un peu implanté à cet endroit, de se diversifier et puis d'aller vers la série et tout. La série, c'est autre chose, hein, vraiment. C'est-à-dire que au moment de la fabrication, ça peut être semblable, sinon que c'est des temps plus longs, mais sinon c'est vraiment d'autres réseaux, par exemple pour financer. C'est des chaînes de télé aussi et tout, mais c'est pas du tout les mêmes personnes au sein des chaînes de télé. Et mine de rien, les relations de confiance, c'est quand même des trucs qui se construisent dans la durée, donc c'est pas si facile en fait de passer du cinéma à la télévision ou de la télévision au cinéma, même si pendant longtemps c'était presque impossible parce qu'il y avait une frontière très franche entre ces deux mondes-là. Pour être honnête, avec surtout les gens du cinéma, genre qui méprisaient un peu les gens de télé, faut dire ce qui est quoi. Il y avait un truc un peu pédant du monde du cinéma. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. En tout cas, pas du tout chez les moins de 40-45 ans, je dirais. Parce que juste, le monde de la télé a fait la démonstration qu'il était capable de produire des très grandes œuvres et que, je veux dire, c'est assez indéniable aujourd'hui. Mais c'est vrai que du coup, c'est d'autres réseaux. Et par ailleurs, c'est pas du tout la même chose d'accompagner dans l'écriture une série et un film. Vraiment, c'est pas du tout pareil. C'est une autre organisation, une autre méthodologie et tout. Et moi, par exemple, je n'ai pas du tout la prétention de vous dire comment on développe correctement une série. J'en ai une petite expérience via ce que j'ai pu observer et tout, mais je ne pense pas avoir un grand savoir-faire de ça encore pour le moment. J'espère l'acquérir à l'avenir, mais voilà.
Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Ce qui m'a frappé dans le film, c'est les rythmes. On sort pas, c'est une comédie, mais on en sort pas, on reste dedans. Est-ce que vous diriez que c'est votre signature? Et est-ce que vous diriez que c'est dû au fait que vous faites beaucoup de formats courts, en fait, de courts-métrages?
C'est une question intéressante. Alors c'est sûr que le court métrage, disons que ça a une vertu vraiment, je pense, c'est que ça pousse à développer une certaine capacité à raconter de façon assez condensée des choses, parfois assez amples en fait et assez complexes. Et donc de ce point de vue-là, ouais, je pense que c'est pas du tout impossible que cette sensation peut-être de rythme et tout puisse venir de là dans une certaine mesure. Après, c'est vrai que en même temps, il n'y a pas forcément genre d'évidence toujours à passer du court métrage au long métrage, simplement parce que c'est vrai que le court métrage, c'est des structures narratives qui sont quand même beaucoup plus simples que les longs métrages. C'est-à-dire raconter une histoire de 20 minutes et raconter une histoire de 90 minutes, c'est vraiment, vraiment pas du tout pareil. Et par exemple, dans un court métrage, l'atmosphère d'un film, sa mise en scène, et parfois même juste un concept, peut réussir à captiver pendant 15 ou 20 minutes. Sur 90 minutes, ou voire 2 heures, ou maintenant il y a même plein de films qui font 2h30, 2h45, ça ne suffit pas la plupart du temps. Alors il y a toujours des contre-exemples, hein, mais là je parle en règle générale. Et c'est vrai que en fait, développer un long métrage et écrire un long métrage, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué qu'écrire un court métrage. C'est-à-dire, je pense qu'écrire un court métrage, quand on est bien entouré et qu'on s'en donne les moyens, c'est faisable. Alors évidemment, jamais pour tout le monde, parce qu'on a tous plus ou moins d'aisance pour écrire et tout. Mais je pense que si on a un peu d'aisance pour écrire, un peu de suite dans les idées et tout, je pense qu'écrire un court-métrage en étant bien accompagné et tout, on peut aboutir à un assez bon résultat. Un long-métrage, c'est vraiment autre chose. Dans le sens où, par exemple, vous voyez, dans un court-métrage, en règle générale, il va y avoir une intrigue principale et il y a rarement des intrigues secondaires. Dans un long-métrage, tout à coup, il va falloir avoir une intrigue principale qui tient sur une assez longue durée, donc du coup, genre avec un certain nombre de rebondissements et qui soit satisfaisante dans son déploiement et tout. Et en même temps, il va falloir réussir à construire autour des intrigues secondaires, mais qui thématiquement résonnent avec l'intrigue principale, etc. Et tout. Et ça, en fait, c'est un savoir-faire qui est, à mon avis, d'une complexité beaucoup, beaucoup plus grande que celle consistant à écrire un court. Mais voilà, mais c'est vrai que nous, par exemple, on a toujours eu un goût pour un cinéma assez narratif, je dirais même en court-métrage. Et donc, du coup, pour reboucler la boucle avec votre question, je pense que cet entraînement, genre pendant 10 ans, à essayer de raconter vraiment des histoires avec des vraies narrations, etc., un peu complexes, souvent en 3 actes, mais en seulement 25 minutes et tout, je pense que ouais, ça nous a appris une forme de concision et ça nous a donné sans doute un certain sens du rythme. Voilà.
Il y a une autre question. Oui. Deux. Alors, vous, monsieur, et vous après. Ouais.
Oui, bonsoir. J'aurais aimé avoir des informations sur le casting, et en particulier des jeunes, c'est-à-dire leur origine, comment ils ont été choisis.
Alors du coup, le casting, c'est une directrice de casting qui s'appelle Christelle Barras, avec qui on a travaillé, qui est en fait une directrice de casting qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur du casting enfant. Et donc du coup, le casting, en fait, c'est un peu, je dirais, c'est un mélange de jeunes comédiens qu'on avait pu apercevoir dans certains films. Par exemple, Issa, qui est celui qui, à un moment donné... s'infiltre dans la salle de concours avec Louise Bourgoin. Lui, c'est un garçon, par exemple, que vous avez pu voir dans Les Misérables, si vous avez vu le film de Lajli. C'est lui qui joue le gamin qui se mange un coup de flashball dans la tête dans le film. Donc, du coup, c'était quelqu'un qu'on avait déjà vu au cinéma, mais qui avait encore peu joué, en fait. Et après, il y en a d'autres dont c'était la première expérience au cinéma, et du coup, c'est du casting sauvage. Donc, alors parfois, ça peut être du vrai casting, donc des annonces auprès des agents d'enfants, enfin qui représentent des enfants ou des ados, ou trucs comme ça, et qui du coup vont se pointer au casting et passer un essai. Mais ça peut être aussi du casting sauvage, parce qu'on met aussi plein d'annonces dans les lycées et tout ça. Et après, bah, c'est ceux qui viennent et qui ont envie et puis qui tout à coup genre, sont bons, à l'aise face à la caméra et voilà, et qui plaisent à la réalisatrice. Et voilà. Alors après, en l'occurrence, Émilie, c'est une réalisatrice qui a une particularité, c'est qu'elle aime bien l'improvisation. Elle aime bien laisser de l'espace aux comédiens, aux comédiennes, d'ailleurs, qu'ils soient pros ou pas. Hein. Et donc, du coup, c'est une qualité qu'elle cherchait de manière générale chez tous les comédiens et comédiennes, et en particulier chez les adolescents qui jouent dans le film. Voilà, grosso modo, c'était ça, le processus.
Alors, bonsoir. J'ai pas trop l'habitude de parler devant une audience, alors je m'excuse si je bafouille. Mais c'est pas vraiment une question, ce que je voulais dire, mais je voulais simplement vous faire part de mon expérience du film. Je m'attendais pas à ça. En tant que, je pense qu'on se rapproche un peu, je me considère un peu comme cinéphile, bref. Et en regardant votre film, au début, je pensais qu'il n'allait pas être les films français, parfois j'ai un peu du mal, mais finalement, ce film-là, bah, il m'a agréablement surpris. Et bah, je serais très content de revoir un film produit par vous, parce que si j'ai bien compris votre métier, je pense que vous avez du flair. Et bah, en tout cas, ça s'est senti parce que le film était vraiment, vraiment... Bah, j'ai vraiment apprécié, puis bah, j'aimerais bien revenir une autre fois pour un autre film.
Ah,
et puis
franchement, merci, c'est trop sympa.
Et je vous souhaite bonne continuation, et puis voilà.
Bah, merci beaucoup, c'est hyper, merci, hyper merci gentil, vous, hyper touchant. Merci beaucoup.
Merci à vous.
La prochaine fois, ça sera dans combien de temps ? Pas dans 7 ans, quand même.
Non, du coup, le prochain film qu'on tourne, c'est un film musical qui s'appelle « Partir un jour », comme la chanson des To Be Sweet. Et c'est un film qu'on va tourner à la fin du mois de mai et qui, en gros, raconte l'histoire d'une jeune femme de 38-39 ans qui est chef et sur le point d'ouvrir un restaurant. Au revoir, bonne soirée. Et qui est sur le point d'ouvrir un restaurant gastronomique à Paris. Et en gros, l'élément perturbateur du récit est que sa mère, qui tient un relais routier avec son père depuis toujours, l'appelle pour lui dire que son père a fait un AVC et que du coup, il ne peut plus s'occuper de la cuisine du relais routier. Et elle lui demande de venir l'aider en cuisine. Et voilà. Et c'est du coup cette femme qui est plus revenue chez ses parents depuis près de 2 ans, qui est dans une trajectoire d'ascension sociale et qui, voilà, du coup, n'est pas en super bon terme, notamment avec son père, alors même que pourtant il y a une filiation professionnelle entre très forte, puisque lui est cuisinier et elle aussi, va se retrouver à retourner chez elle et voilà, va devoir un peu résoudre ces tensions familiales qui existent, cette relation au père un peu compliquée. Et il y a aussi en fait un amour de jeunesse qui se réactive à cette occasion où elle se demande du coup si elle n'est pas passée à côté du grand amour. Voilà. Et du coup, la spécificité du film, c'est que c'est un film musical, donc ça chante dedans. Et c'est que des morceaux du répertoire populaire français, en fait, qui sont réinterprétés. Donc c'est un peu « On connaît la chanson », si on veut, de René, pour ceux qui l'ont vu. Mais sauf qu'on réinterprète les morceaux. Quoi. Voilà.
On attend avec impatience. Un petit mot pour la compositrice.
Oui, Julie Rouet, du coup, qui est la compositrice du film, qui est la collaboratrice privilégiée d'Emilie, parce qu'elle a aussi bossé sur plusieurs de ses projets de série et tout, enfin même sur tous, je crois. Et qui est quelqu'un de vraiment génial, quoi, enfin hyper doué. C'est une jeune compositrice, enfin je sais pas quel âge elle a en vrai, mais plus ou moins mon âge, je pense.
Ça doit être ça.
Moi, j'ai 38 ans, mais j'imagine plus ou moins dans cet âge-là. Et non, en fait, ce que j'aime beaucoup avec elle, c'est que en fait, c'est quelqu'un qui réussit toujours à trouver un léger pas de côté, quelque chose d'un tout petit peu étonnant dans la direction qu'elle donne à ses compositions et à sa composition générale, genre sur un film. Là, par exemple, du coup, c'est cette ligne un tout petit peu de jazz qu'il y a dans le film, qui n'est pas du tout écrasante, on n'est pas sur du gros jazz, etc., mais quand même, c'est la tonalité... la ligne directrice, on va dire, de la composition, quoi. Et c'est vrai que ça, dans une comédie et tout, je ne l'avais pas tant vu que ça, en fait. Et je trouve que ça donne aussi, enfin, ça participe en tout cas à donner une tonalité un peu singulière à l'ensemble. Et voilà, ce côté comédie un tout petit peu décalé, quoi. Voilà.
Est-ce qu'il y a encore une question ? Bis repetita. Voilà. Donc, je vais faire du latin comme tous les gens dans la salle dès demain matin. Voilà. Bah, je pense qu'on peut applaudir Arthur et le remercier.
Merci beaucoup, franchement, à tous d'être venus. C'était voilà. Hyper chouette de voilà. Tous vous voir et d'échanger avec vous.
Voilà. Et merci à vous d'être avec nous ce soir et d'avoir, pour certains, participé à ce très beau film tourné chez nous. Mais qui a une carrière nationale. Voilà. Bonne soirée, à bientôt dans nos salles.